Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et on se retrouve avec nos invités pendant que je m'installe tranquillement, nos débriefeurs qui sont là ce soir pour tous ces sujets. On est avec Frédéric Bianchi, bonsoir.
Bonsoir Frédéric. Frédéric,
merci d'être avec nous, qui a juste descendu deux étages, parce que c'est journaliste chez BFM Business. Avec nous ce soir, Claudia Cohen, bonsoir Claudia.
Bonsoir.
Journaliste au Figaro, et ben voilà, il y a pas mal de choses que tu écris chaque semaine, mais cette semaine on va revenir notamment sur certains de tes articles. Et puis Didier Sens, bonsoir.
Salut.
Didier, journaliste de la tech. À un moment, j'avais vu un sujet sur Atari qui revenait. Je me suis dit, tiens, ça va être un sujet pour Didier. Et puis bon, la news datait un peu.
Le dinosaure, c'est ça.
Le dinosaure, voilà. Allez, on va parler aux anciens. Hier soir, on fêtait la fin de l'ICQ,
oui,
qui terminait ses 30 ans. Et c'était le 26, donc on a fêté tout ça. Alors ce soir, on va parler d'un sujet que vous connaissez tous, hein, sont les câbles sous-marins. On les emprunte tous les jours, sans vraiment le savoir. Et puis là, bien, c'est Nokia qui cède Alcatel Submarine Networks à l'État français. Alors Alcatel, parce que Nokia avait racheté cette partie Alcatel, ensuite c'est revenu chez Nokia, et puis l'État a décidé de reprendre la main là-dessus. On va en parler ensemble. On reviendra aussi, tiens, sur une news, d'avoir si c'est important ou pas, parce que beaucoup, je regardais la presse américaine, elle rebondissait beaucoup dessus, c'est Google Traduction qui va parler breton, moi ça m'arrange, occitan pour ceux qui sont plus dans le sud, créole, qui va rajouter plus de 100 langues, hein, et on va voir si c'est important ou pas, parce qu'évidemment il y a de l'IA autour de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que c'est juste pour préserver un patrimoine culturel, ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt business, un vrai intérêt technologique derrière tout ça? Et puis dans cette première demi-heure, greenwashing chez les GAFAM. Voilà, il y a un écran zéro consommation chez Samsung, on verra si c'est vrai, si c'est vrai ou pas. Et puis les Apple Watch sont-elles neutres en carbone? En tout cas, l'Europe en doute un peu. Voilà, on va parler de tous ces sujets. Merci d'être avec nous tous les trois, merci de nous suivre sur BFM Business, réagissez évidemment sur le compte Twitter. Alors on va démarrer avec ces câbles. Alors évidemment, ça arrive dans un contexte politique, économique en France où, voilà, vous savez, Katos, on essaie de rattraper aussi tout ce qui est souverain. L'État essaie de remettre la main sur tout ce qui est souverain. Et puis là, l'État a décidé de nationaliser encore des activités stratégiques, alors liées en partie au renseignement militaire. En tout cas, c'est ce que nous dit Mathieu Pechperti. On l'écoute et on réagit juste après.
Difficile de n'y voir qu'une coïncidence. À deux jours des élections législatives, l'État nationalise des activités sensibles pour le renseignement militaire. Cette ancienne filiale d'Alcatel transporte sous les océans des câbles de l'armée. Les services secrets l'utilisent aussi pour capter des données et écouter les télécommunications. Les 1200 salariés voient régulièrement des fonctionnaires de l'armée, du ministère de l'Intérieur ou des Affaires étrangères visiter les sites de Calais et des Ulysses. Les noms de clients sont regardés de près, assure l'un d'entre eux. Alcatel Submarine Networks travaille aussi pour Facebook et Google, mais que pour des entreprises de pays alliés. La guerre en Ukraine a changé la donne et ces câbles sous-marins deviennent des cibles. Face à un tel risque, le gouvernement avait engagé des négociations avec Nokia depuis un an. Déjà en 2015, il avait échoué à adosser la société à des industriels proches de l'État comme Orange et Thales. Lorsqu'Alcatel s'était vendu à Nokia, le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, voulait déjà garder la main dessus.
Voilà, on va rappeler en quelques mots l'activité de cette, les activités de Alcatel Submarine Networks. Donc, ils ont des bateaux pour poser des câbles. Ils ont aussi tout ce qui est la connectique en fibre optique. Ils ont tout un tas de brevets pour que plusieurs transmissions puissent passer sur une seule fibre optique sous-marine. Ça appartenait à Alcatel. Et puis, je crois que c'est dans les années 2015. Nokia, Alcatel était un peu avait été un peu découpé. Et donc, Nokia avait racheté cette partie-là. Enfin, je crois que c'est 2019, Nokia avait essayé de revendre cette partie-là à Orange, BPI France, ça ne s'était pas fait. Bon, le Covid est arrivé par-dessus. Et puis là, ça y est, Nokia cède ASN à l'État français.
80%.
80%, oui. Alors, le chiffre d'affaires, c'est aux alentours de 1 milliard. Ça a été cédé pour 100 millions.
C'est valorisé 350 millions.
Voilà, et puis on le rappelle, Mathieu Pechperti le disait dans le reportage, sur ces fibres optiques, passe l'essentiel de nos communications internet, donc du Google, du Netflix aussi, il faut le dire de plus en plus le soir. Comment il faut voir ça, Claudia? Je démarre avec toi.
Ce que disait un petit peu Mathieu dans le reportage, c'est un mouvement assez stratégique de la part de l'État qui était, à mon sens, quand même essentiel, parce qu'en face de l'État français, il y avait des acteurs étrangers qui convoitaient aussi ces câbles. Finalement, c'est cher sans être cher, on va dire. L'État a d'ailleurs précisé que le montant, les 100 millions avaient été budgétés dans voilà, le précédent budget.
Parce qu'on sait que, rappelons qu'on est dans un contexte politique un peu particulier.
Dans deux semaines, peut-être tout va changer et voilà, ceux qu'on connaît ne seront plus au pouvoir. Donc c'est une très bonne nouvelle. Pour Nokia aussi, il faut dire que c'était peut-être le bon moment de céder ses activités. On sait, Nokia est un peu en difficulté sur son cœur de marché, parce que maintenant avec la 5G on va dire qui est bien installée, il y a moins besoin de la part des clients d'être équipé, donc c'est un peu plus compliqué pour Nokia. Il y a eu un grand plan social aussi qui a été annoncé avec je crois que c'est plus de 10 000 emplois supprimés. Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
Mais ça n'apparaissait plus dans les priorités stratégiques en tout cas pour Nokia.
Exactement, c'est une très bonne nouvelle et je pense que l'État aurait le mérite de faire la même chose sur d'autres dossiers. Et finalement, mieux vaut qu'on ait ça dans les mains des Français plutôt que dans les mains des Américains ou d'autres Européens.
Didier, pour une fois, la souveraineté bien choisie, là.
Voilà, donc là, on est clairement dans ce registre-là. Hein. On a parlé du cloud souverain, on a parlé de tout autre chose qui ne marche pas. Ouais. Là, ça marche. Hein. On a une solution pour gérer nos communications Internet. Ça, les câbles sous-marins, c'est quand même 99% du trafic. C'est donc énorme. C'est effectivement un enjeu stratégique, comme tu le disais.
Et puis nous, on est un nœud important à travers la Bretagne, à travers Marseille aussi, qui est un gros nœud d'arrivée de fibre optique.
Et il fallait effectivement réagir parce que la concurrence est rude. En ce moment, c'est surtout une concurrence japonaise, c'est NEC. Une concurrence américano-suisse avec... je sais plus comment elle s'appelle cette société, T-Subcom. Oui. Donc c'est bien, c'est un geste fort qui montre que l'État est sensible à ces questions-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire de cette boîte qui effectivement a été rachetée à l'époque.
Ah, pour ceux qui adorent les télécoms, toute l'histoire est belle en plus.
Ça commence en 1850 dans ces eaux-là. Ouais. C'était à l'origine un opérateur de câbles de télégramme, télégraphe qui passait entre l'Angleterre et la France. C'était une boîte anglaise d'ailleurs. Mm-hmm. Et la société a été rachetée par la CGE. Ouais. Alors je ne sais plus si c'est dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Et la CGE étant devenue après Alcatel, etc., elle a grandi avec. Donc maintenant, il y a des usines à la fois dans le Pas-de-Calais et aussi en.
Oui, il faut bien
Angleterre.
Dire que c'est pas. Alors, il y a des bateaux, il y a
six. Et ils ont une flotte de bateaux absolument.
Ils ont une flotte
incroyable.
De bateaux pour poser ces câbles. Mais comme tu l'as dit, il y a des usines parce que derrière, il y a la fabrication des câbles.
La conception même.
Et puis, il y a beaucoup de brevets. Il y a la technologie. Alors, pour ceux qui suivent la fibre optique, c'est la technologie WDM qui permet d'être encore plus puissant sur une même fibre. On va faire passer plusieurs technologies. La technologie d'ailleurs de ASN est plutôt bien reconnue, hein. elle est utilisée d'ailleurs. Là, le fait qu'ils puissent, parce que Nokia avait la sienne, ça aussi c'était, il y avait une petite compétition interne, et on peut imaginer que bien là ils vont un peu pousser cette technologie. Souveraineté, parce que on l'a vu notamment, Frédéric, avec le Covid, c'est quand même bien d'avoir ces infrastructures à soi, que si un jour les autres coupent, nous on aura quand même un peu ces liens.
Ah, difficile de nous voir autre chose qu'une dimension politique. L'État n'a pas a priori vocation à tirer des câbles sous-marins. Hein. C'est une activité, c'est un business, un très grand bon business.
France Télécom de la grande époque.
D'ailleurs, un excellent investissement de Bercy. Hein, vous l'avez dit, 100 millions d'euros d'investissement. Une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, qui a doublé son activité depuis l'avant-Covid. Donc, c'est une entreprise qui se porte plutôt bien. La dimension politique, elle est flagrante. On est là à quelques jours d'une élection législative importante. Alors, tu parlais du Kaatos. Le Kaatos, c'est intéressant, mais c'est une entreprise qui est en pleine déroute. Mm-hmm. L'État, c'est vrai, a sécurisé, à hauteur, je crois, de 700 millions d'euros, toutes les activités cybersécurité, contre-militaire, supercalculateur,
gestion des centrales nucléaires.
Pour éviter qu'il y ait un prédateur extérieur qui vienne s'emparer de cette activité. Là, c'était pas le cas. C'était une entreprise qui se portait bien. Alors que Nokia voulait céder parce que Nokia a besoin de cash. Il vient de perdre un gros contrat, je crois que tu le disais, aux États-Unis sur les équipements télécom.
Contre Ericsson.
Mais malgré tout, normalement, dans une période peut-être plus apaisée sur le plan politique, on aurait pu penser que l'État mette en cheville Nokia pour qu'il le vende, peut-être, oui, pour qu'il l'adosse à un industriel français.
Est-ce que
la vocation de Bercy d'acheter ce genre d'entreprise, a priori non. Est-ce qu'il va le garder?
C'est l'Agence des participations de l'État. Hein, donc
c'est l'Agence des participations de l'État, oui, évidemment.
Qui est différent, c'est pas BPI France.
Et puis c'est une entreprise française, on dit Nokia, mais c'est, je crois que les trois quarts des salariés sont en France.
Oui.
Bon, voilà. Donc l'État rachète une entreprise française. C'est un très bon investissement, en tout cas, qui est une entreprise qui fonctionne, qui marche bien. C'est un des trois géants mondiaux du secteur. Maintenant, il y a la dimension politique. On s'affiche, on montre que l'État protège les Français, l'État protège la souveraineté dans le numérique. On l'avait vu dans l'alimentaire aussi il y a quelques années avec Carrefour. Il le montre aussi avec Atos sur des questions d'ordre stratégique. Donc voilà, c'est difficile de voir autre chose que ça.
Et ça a été reproché à l'État mouvement. D'ailleurs sur le dossier Atos de ne pas être intervenu plus tôt en fait.
Et moi pour le cloud, je trouvais qu'ils auraient peut-être dû être beaucoup plus interventionnistes sur la partie cloud en dehors de la partie.
Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est vraiment acceptable socialement en fait. L'État est déjà s'ingère déjà dans pas mal d'aspects économiques du quotidien des Français. Sur ces aspects qui sont en fait extrêmement compréhensibles, il y a aucun souci à aller là-dessus. Et tu le disais, là la solution peut-être de trouver un industriel français aurait pris plus de temps, peut-être le temps manqué.
Ils ont essayé avec Orange, avec Thales, ça s'est pas fait. Alors là, est-ce qu'ils vont continuer, est-ce qu'ils vont le conserver ou est-ce qu'ils vont
ça,
essayer
est-ce
de la
demain,
de
l'adosser ça peut être ça peut s'adosser à un industriel français. En tout cas, maintenant, c'est une option.
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est pas une opération, un gouffre financier qui va nous faire perdre de l'argent. Au contraire, c'est une entreprise qui va bien, qui est rentable et qui effectivement peut se revendre à un prix absolument incroyable.
Et puis, je reviens avec ma technologie WDM, mais qui ont des brevets.
Absolument.
Ils ont un beau capital de techno, innovation, R&D, des usines. Enfin voilà, on est vraiment dans un bel exemple de l'État qui s'y met, qui prend les risques. Et puis on verra pour la suite, est-ce que c'est l'État qui va continuer à gérer, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un autre industriel, parce que les Thalès et Orange n'étaient pas intéressés à l'époque. Après voilà, et puis c'est vrai que le contexte politique fait que on est sûr de rien dans les semaines et les mois à venir. Autre sujet, justement des Google traductions, il y en a beaucoup qui ont dû passer sous l'Atlantique là quand on a fait, parce qu'évidemment Google, les GAFA utilisent beaucoup ces fibres optiques, mais là on parle de ce sujet, c'est Google traduction qui va parler. Alors on le disait un peu sur le ton de l'humour, mais enfin, c'est pas totalement anecdotique, hein. Breton, occitan, centre-tout le créole, il y a des langues africaines, il y a le cantonais aussi, enfin voilà, ça regroupe plusieurs langues. Et ma question était de savoir qu'est-ce qu'il fallait penser de tout ça. Alors, est-ce que c'est une. Alors, il y a évidemment un côté innovation, technologie, Google met en avant sa technologie Palm, qui est un peu le IA Gemini pour la traduction. Après, est-ce que c'est quelque chose aussi pour résister? Parce que quand on regarde ce que fait ChatGPT, aujourd'hui, DeepL,
je pense que Google a pris du retard là-dessus. Ils étaient bien partis. Google Trad, c'est un truc qui a marché plutôt pas mal. Oui. Et puis, ils ont vu les progrès d'autres acteurs. Je pense notamment à DeepL qui a fait vraiment des...
On n'avait plus le défaut des Google Traductions qui, parfois, la traduction n'était pas tout à fait...
Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. DeepL fonctionne à partir d'un moteur d'intelligence artificielle qui fonctionne bien. Ils analysent des milliers de textes. Ils arrivent et donc, je pense que Google a vu que ça se passait par là. Oui. Et dès qu'ils ont mis au point leur Gemini, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont essayé de l'adapter à leur système de traduction. Alors, c'est bien. Ça va leur permettre de reprendre l'initiative dans ce domaine-là. Et puis, effectivement, maintenant, les gens qui ont des traductions à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par ChatGPT. Hein. Oui. Donc, il va falloir forcément entraîner ce Google Trad à avoir de plus en plus d'espace, de plus en plus de clients. Et les clients, ils se recrutent où? Dans les endroits où on parle des langues. Je sais que un quart, je crois, de ces nouvelles langues là qu'ils ont mis sur Google Trad sont des langues africaines.
Oui.
Parce qu'effectivement, là-bas, le nombre de par pays, le nombre de langues.
Elle est parlée par 100 millions de personnes.
Mais
imagine le Nigeria.
C'est comme le foot maintenant, un des enjeux de diffusion des Coupes du Monde, etc. C'est la traduction. Exactement. Aussi, les commentateurs en toutes les langues. Pour poursuivre ce que disait Didier, je pense que Google Traduction fait aussi le pari de la quantité face à des nouveaux acteurs comme DeepL qui sont, on le disait, peut-être un peu plus qualitatifs sur certains aspects. Là, Google Traduction, ce sera plus de 130, je crois, langues, donc qui donnent la possibilité de traduire. DeepL, on est sur une petite trentaine de langues pour l'instant qu'on peut traduire. Et c'est un service aussi dont une grosse partie est payant. Je crois que vous avez un nombre de textes, de signes, pardon, oui, que vous pouvez traduire gratuitement. Et ensuite, c'est le pari du payant. Donc, je pense que c'est des modèles différents et Google va chercher des parts de marché sur peut-être des zones qui de toute façon ne paieraient peut-être pas pour ce type de service et qui ne trouvent que ces langues-là sur Google Traduction, et je trouve que c'est assez judicieux. Et puis par ailleurs, je trouve ça quand même bien qu'on mette en avant aussi les différents dialectes, langages, oui, spécificités.
Oui, un côté de préservation culturelle.
Exactement, qui est important et qui a peut-être tendance parfois à disparaître cette préservation culturelle avec la technologie, donc c'est plutôt bien.
Oui, d'autant plus que sur la note de blog, c'est assez intéressant, ils expliquent Google qu'ils ne font pas appel qu'à l'intelligence artificielle.
Oui, il y a des linguistes.
Ils ont bossé avec des linguistes, avec des locuteurs de ces langues rares, etc. Donc, il y a une démarche un peu humaniste, on va dire.
Et avec un peu universitaire. Et puis, je pense que ça permet aussi, parce qu'ils disent il y a des langues qui ont publié beaucoup de contenu, mais qui n'ont jamais été traduits. Et ça peut aussi ramener du contenu davantage pour entraîner encore les IA à d'autres sujets.
On va y arriver.
Fred, bien qu'il...
Oui, non, mais Google, moi je pense que Google est, comme tous les GAFAM, une vocation universelle. Ils veulent s'adresser au monde entier. Il n'y a pas un être humain qui ne doit pas utiliser leur service. Et là, c'est vrai qu'ils en manquaient beaucoup quand même. Parce que mine de rien, la somme de ces petites ou pas si petites que ça d'ailleurs.
110 nouvelles langues.
Hein. Enfin, le cantonais, c'est pas si petit. Ouais.
Non, voilà, le cantonais, le Punjabi, qui est une langue très parlée en au Pakistan, au total, ils estimaient que c'était 660 millions de locuteurs. C'est pas rien quand même. Hein. On parle de 8 à 10% de la population mondiale.
Qui vont pouvoir faire des recherches, entraîner les IA sur leur langue.
Est-ce que ce sont 660 millions de locuteurs en langue maternelle, ou est-ce qu'il y a beaucoup aussi, comme le breton, de langues un peu plus localisées? Mais malgré tout, ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'aller chercher ce public-là, ben pour Google, qui a cette vocation universelle de s'adresser à la planète entière, ben il faut aller chercher ce qu'on appelle en marketing la long trend, c'est-à-dire même si c'est des plus petits publics, la somme de ces plus petits publics, ça fait quand même beaucoup de monde. Et pour Google, il fallait que ces outils puissent parler cette langue-là. Juste pour répondre à Didier, moi je trouve quand même que Google Trad a fait des progrès en termes de qualité. Par rapport à il y a 5-6 ans, quand on se tapait des documents, quand on les mettait dans Google Trad, c'était cataclysmique. Je me rappelle le texte d'article de la presse japonaise que j'essayais de lire dans Google Trad, c'était illisible. Aujourd'hui, il y a quand même, alors c'est vrai que sans trop faire de bruit, ils ont quand même amélioré leur algorithme, leur IA a fait des progrès, et donc là, oui, ils vont chercher, évidemment, ils sont archi-leaders, à ma connaissance, sur le nombre de langues qu'ils vont proposer, parce qu'ils en avaient une 130 plus 110, ça fait 200.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des entreprises qui peuvent mettre en place des services aussi à travers ce Google Trad, d'accompagnement, de papiers juridiques, je sais pas, est-ce que ça pourrait être...
Ouais, peut-être papier juridique, ce serait, je pense, peut-être l'étape d'après, quand ce sera plus perfectionné, parce que c'est difficile aussi même d'interpréter, entre guillemets, les différents droits aussi. Après, oui, ça laisse énormément de possibilités de services pour les entreprises, et puis ça ouvre encore plus la découverte du Monde, d'autres journaux.
Ça va ouvrir aussi les perspectives des spammers.
Oui. Après, on rappelle, c'est quand même un service gratuit proposé par Google. Le nerf de la guerre, c'est la publicité. Et le but, c'est d'attirer le plus grand monde possible sur ces services.
Attendez qu'il y ait la voix par-dessus qui viendra s'ajouter. Et puis
c'est ça qu'on attend aussi maintenant, savoir si c'est l'IA générative pourra parler breton, occitan, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Punjabi. Ouais.
Voilà. Alors,
en tout cas, West France a testé le service en breton. Et ça semble assez de bonne qualité.
200 000 personnes intéressées par le breton, donc je confirme. Alors, autre sujet. Greenwashing chez les GAFAM. C'est vrai que là, coup sur coup, on a deux annonces. On a l'écran zéro consommation. Je crois que c'est toi, Didier, qui l'avais repéré de Samsung. Est-ce que c'est une vraie innovation, une petite arnaque? Et puis, il y a l'UE qui reprend un peu le côté les Apple Watch, notre en carbone. Il monte un gros point d'interrogation en disant, mais qu'est-ce que vous nous racontez là, Didier, sur le...
Oui. C'est tout le monde connaît cette histoire où vous achetez un dentifrice à la menthe bio et vous êtes tout content parce que vous pensez que votre dentifrice c'est bio et en fait c'est la menthe qui est bio. Oui. Et la menthe elle est 0,01% du composant total du dentifrice. Mais on a un peu le même phénomène dans la tech, c'est-à-dire que il y a des grosses étiquettes qui disent 100% recyclé, machin, truc muche. En fait, 100% recyclé, c'est le boîtier autour. Mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est des terres rares, c'est des trucs, etc. Donc l'Union européenne a vu ça et s'est dit maintenant ça commence à bien faire. Il y a des allégations écologique, de respect de l'environnement qui ne sont absolument pas légitimes. D'autant plus que souvent le phénomène qui arrive, c'est qu'on se base uniquement sur des prétentions marketing qui ne sont absolument pas prouvées. Alors, On a des grosses étiquettes, des gros logos,
etc. Et d'autant plus que les acheteurs, ils font de plus en plus attention. Oui. Donc parfois, s'ils sont bernés, voilà, ils sont embarqués
puis,
dans un produit qui ne
correspond pas. Il y a une confusion. On parle souvent c'est pas le bilan carbone. Je cherche le nom. C'est l'équivalent carbone. Les industriels expliquent qu'ils peuvent vendre des produits hyper polluants, mais ils ont planté 10 arbres à côté. Oui. Donc voilà, ça, c'est la compensation.
La compensation.
Donc l'Union européenne a dit maintenant, ça commence à bien faire. Vous n'avez plus le droit de dire que votre produit est écolo si c'est juste de la compensation carbone parce que vous avez planté 10 arbres. Et deux, vous devez respecter les normes écologiques certifiées. Vous ne mettez pas n'importe quel logo de n'importe quelle entreprise qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, maintenant, tout le monde se vante d'avoir une bonne empreinte carbone, un bilan carbone exceptionnel, etc. L'écran Samsung, c'est un bon exemple.
Oui.
Il est présenté comme un écran zéro consommation. Pourquoi ? Parce qu'il utilise la technologie e-ink, cette technologie que tout le monde connaît, hein, qu'on utilise sur les liseuses.
Oui.
Là, ils ont trouvé une technologie qui leur permet de faire un affichage en couleur. Donc, ce sont des grands écrans qui servent en fait de panneaux d'affichage pour des publicités ou de l'information en magasin. Donc, l'image est statique, c'est pas un écran de télé ni un moniteur informatique. Donc, ça consomme effectivement 0,0%, mais là encore, le bilan carbone, il s'arrête pas à la consommation du produit.
Cycle de vie.
Voilà, on est allé chercher des terres, des minerais, on est allé fabriquer des matériaux, il y a eu de l'importation par des cargos, des machins, des trucs, enfin là-bas. Donc,
pour ces produits, un chiffre de l'ADEME, les trois quarts en fait de l'empreinte carbone de ces gadgets sont dans la phase des fabrications.
Exactement.
Donc tout le reste, même si on vous dit, et puis en plus, je pense que l'autre réflexion pour compléter ce que tu disais à se faire, c'est qu'est-ce que ça vient remplacer ? Parce que là, l'écran Samsung, ils le vendent comme on le remplace un petit affichage publicitaire dans un magasin. Mais quelle est vraiment l'utilité à aller ajouter du numérique ?
Oui.
Certes, qui disent qu'ils consomment peu, mais
ça permet de changer l'affichage des prix, les soldes, des trucs comme ça, par exemple.
Ouais, mais bon, je trouve qu'il y a vraiment cette question de l'utilité à se poser par rapport à des affichettes qui, de fait, consomment moins. Enfin, je trouve qu'on tend assez facilement à choisir la solution du numérique parce que c'est un peu plus simple, parce que ce sera peut-être plus rapide, mais il y a beaucoup ça, je pense, à se poser. Il y a le réflexe aussi consommateur, le réflexe entreprise sur des gadgets, parce que là, on parle quand même de gadgets, on ne parle pas d'outils essentiels pour le travail. Mais ce que tu disais aussi par rapport à la réglementation européenne, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en France, ça existe déjà. On a été assez avant-gardiste, la France, autour de la transparence publicitaire. Et ça fait, je crois, je ne veux pas me tromper, mais je crois que ça fait depuis 2022 que ces règles européennes existent en France et qu'on voit de moins en moins, du coup, de messages publicitaires trompeurs. Parce que maintenant, l'entreprise est obligée de faire un audit et de prouver vraiment de façon très très factuelle que ce qu'elle raconte est vrai, et tant mieux.
Oui, enfin, cela étant, les publicités Twitter, Facebook, etc., les publicités en ligne, elles ne respectent pas toujours les normes françaises.
C'est vrai, oui.
Après, Fred Bianchi.
Non, sur l'écran de Samsung, oui, effectivement. Alors, si c'était pour remplacer les immenses écrans qu'on voit dans le métro, dans les magasins, très bien. Parce que là, ils sont archi-consommateurs. Hein. J'ai vu qu'ils consommaient 20 000 kWh pour 10 ans, c'est-à-dire l'équivalent. Et puis, c'est à peu près
leur durée. On les éteint jamais,
ils tournent 18 heures par jour. 20 000 kWh sur 10 ans, c'est la consommation d'une famille de 4 personnes dans 120 mètres carrés pendant un an. Voilà, c'est quand même, sauf qu'ils remplaceront jamais ces écrans-là. Ils vont remplacer des posters parce que on peut pas afficher de vidéo. Or, sur ces écrans-là, il y a que des vidéos. Donc, effectivement, c'est voilà, c'est pour enlever des posters et mettre ces écrans-là avec tout le process de fabrication qui, lui, est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Ça sert à rien. En revanche, sur la question de la réglementation. Moi, je suis un petit peu sceptique. Alors oui, effectivement, il faut lutter contre les abus de greenwashing de compensation. Mais est-ce que ça peut pas un peu orienter aussi les consommateurs ? Parce que si tous les produits d'un rayon sont mis sur le même point pied d'égalité. Moi, je préfère quand même, malgré tout, acheter un téléphone où l'entreprise va planter 10 arbres derrière, plutôt qu'acheter un téléphone où l'entreprise ne plantera même pas ces 10 arbres. Donc, il y a peut-être d'autres moyens de communiquer.
Ça ne t'empêchera pas d'acheter celui de l'entreprise avec les 10 arbres, simplement.
Oui, mais il faut le savoir.
Il y aura le logo. Le logo ne sera pas le logo 100% écolo, bilan carbone, etc. Ça sera j'ai planté 10 arbres.
Oui.
Donc, oui, non, mais il faut informer le consommateur.
C'est la dimension neutre en carbone qui est sans doute fallacieuse, parce qu'effectivement, on ne sait pas si les 10 arbres, quand est-ce qu'ils seront plantés, est-ce qu'ils ils aspireront autant de CO2 que les marques le disent. En tout cas, il faut quand même que les marques qui font un peu mieux, le consommateur puisse être informé, parce que c'est la seule information qu'on a. Les consommateurs, ils ne vont pas aller sur Internet pour savoir qu'il y a Apple émet de CO2. Il faut en magasin qu'il ait un minimum d'informations, la plus honnête possible, mais il faut qu'il ait un minimum d'informations. Si une marque fait un peu mieux que les autres.
Dans l'univers entreprise, hein, il y a tout ce qui est la norme CSRD là, qui va arriver. Il faut justifier qu'on respecte les enjeux environnementaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est un critère d'achat. Et ils sont même poussés par leurs utilisateurs pour dire nous, on veut des choses un peu plus, entre guillemets, green. Alors après, il y a aussi.
Parce que les normes dont parlait Didier, est-ce que le consommateur les connaît toutes? Est-ce qu'il sait de quoi il les retourne? C'est vrai qu'un terme simple comme neutre en carbone, même s'il est faux, bon, il indique. Alors, il faudra peut-être trouver des moyens d'indiquer que moi, entreprise, je fais un peu d'effort, je plante 10 arbres, alors que l'entreprise Z qui est à côté de moi,
elle n'aura pas son logo, elle n'aura aucun logo.
Elle n'aura aucun logo.
Allez, eh bien, nous, ce ne sont pas des arbres qu'on va planter, c'est le journal de l'écho, là, qu'on va planter, là, devant nous.